D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. La femme a tous les droits. C'est peut-être parce qu'elle a moins de pouvoir que les hommes et qu'on lui laisse des distractions vestimentaires et d'ornement. À moins qu'elle ne soit une guerrière qui s'équipe pour à la fois séduire et se protéger. En tout cas, elle a tous les droits vestimentaires. Elle peut porter des pantalons, elle peut porter des robes. Elle peut porter du noir, elle peut porter des couleurs. Elle peut porter des chaussures plates, elle peut porter des chaussures à talons. Les extravagances lui sont permises, comme d'avoir des semelles rouges, des chevelures à mèches violettes, des maquillages blancs, ainsi que ce qu'on appelle des accessoires, enfin, tous ses joujoux, tous ses plaisirs. L'homme, lui, est réduit à l'état de cheminée. Il est habillé en noir ou en couleur sombre. Il ne peut porter que des pantalons et des souliers plats, à aucun cas du maquillage. C'est peut-être par hypocrisie qu'il le fait, l'hypocrisie du pouvoir qui veut persuader qu'il n'est pas pouvoir. À moins que ce ne soit pour faire croire à son sérieux, le sérieux étant assimilé à la sobriété. Comme si Louis XIV, avec ses fanfreluches, n'avait pas été sérieux. Le régime politique conditionne ces choses, sans doute. Un politicien démocrate, qui doit se présenter devant des électeurs, doit faire semblant d'être comme eux, et peut-être l'est-il. Tandis qu'un roi absolu n'a de compte à rendre qu'à son miroir. L'homme n'a aujourd'hui plus droit à aucune fantaisie d'habillement, si tout de même une. Fine, étroite, presque rien en surface, mais importante pour la couleur et la variété des motifs, c'est bien sûr la cravate. Une cravate, c'est un pinson posé sur la cheminée du corps du mâle, l'unique objet lui permettant la fantaisie. Évidemment, si c'est permis et circonscrit, ça n'est pas vraiment de la fantaisie. La cravate est-elle une liberté ou un boulet peint en couleur? De quand date-t-elle d'ailleurs? À quel code est-elle soumise? Peut-on la qualifier d'accessoire? Mon invité dirige une maison qui a l'honneur d'être mentionnée par Marcel Proust dans « À la recherche du temps perdu », ce qui vaut mieux que 10 campagnes de publicité sur TF1. Et c'est précisément à propos de cravate. C'est aussi un moment où Proust, généralement si attentif à ses qualificatifs, en emploie un de vague. Le narrateur dit qu'il porte, je cite, « une cravate merveilleuse de chez Charvet ». Ah, c'est peut-être la faute du fournisseur si l'écrivain est vague. On n'a pas besoin d'expliquer la supériorité du poulet de Bresse sur les autres volailles. Quel est le secret professionnel de la cravate? Je reçois pour en parler Jean-Claude Colban, qui dirige donc la Maison Charvet à Paris. Jean-Claude Colban, quelle est, pour commencer, l'origine dans le temps de la cravate? Je crois qu'on en trouve des traces représentées dans des tombeaux chinois.
Oui, dans les tombeaux chinois. On parle également de soldats croates qui portait la dite cravate au temps de Louis XIV. Mais la cravate telle que nous la connaissons aujourd'hui date plutôt, plus sérieusement, du début du XIXe siècle.
Attendez, vous allez trop vite. Parce que d'abord, je trouve intéressant que ces cravates dans les tombeaux chinois datent du IIIe millénaire. Je crois qu'on en trouve encore des traces sur la colonne Trajane, c'est-à-dire oui, au IIe siècle de notre ère. Et puis, les régiments, expliquez-moi cette histoire, parce que c'est l'étymologie même du mot, je crois.
Oui, c'est l'étymologie du mot.
De sont quand datent ces croates?
Eh bien, du XVIIe siècle. C'est un régiment de Croates qui se battait pour la France et dont la victoire a été célébrée par une mode soudaine de porter la cravate à la croate. Mais ça a été une mode éphémère et ce sont les historiens d'aujourd'hui qui se plaisent à retrouver ces traces anciennes, mais qui n'ont pas autant de rapport avec la cravate que nous connaissons et que vous connaissez.
Oui, c'est
ça. Le poulet de Bresse que vous évoquiez, que la cravate des débuts du XIXe siècle.
Oui, car j'ai cherché ces histoires de croate et cravate sont un peu douteuses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a existé un régiment Royal Cravate créé en 1667.
Voilà.
Et qui a été licencié en 1815 après avoir participé à la bataille de Valmy.
Tout à fait.
Alors, la cravate, vous me dites, la cravate telle qu'on la connaît, apparaît au XIXe siècle.
Oui, au début du XIXe siècle.
Au début.
Oui, c'est vraiment le fait des dandys. Comme vous pouvez vous les imaginer avec ses caricatures de Brummel refaisant son nœud pendant des heures devant son miroir, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, la cravate, au début, c'est avant tout un nœud. C'est un morceau de tissu qu'on noue savamment. Et quand vous avez sûrement connaissance du traité de la cravate de Balzac, et c'est avant tout une affaire de nœuds les uns plus extravagants que les autres. le tissu à l'époque n'a aucune importance, ou très peu, enfin, on en parlera sans doute plus tard. Ce qui compte, c'est le nœud, le plus exubérant, le plus singulier, le plus personnalisé qui soit.
D'ailleurs, elle, à cette époque-là, elle n'a pas vraiment de pan pendant comme celle que vous portez devant
moi. Pas du tout, c'est plutôt ce qu'on appellerait une lavalière, voire presque une écharpe. C'est avant tout un objet qui orne cet espace vide autour du cou et entre le cou et le gilet qui s'ouvre à l'époque.
Donc c'est-à-dire qu'au fond, grâce au dandy, on quitte l'utilité de se protéger du froid et de fermer son col pour faire une chose un peu extravagante qui ne sert à rien.
Exactement, qui singularise la personne qui la porte. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'à l'époque, si le nœud a de l'importance, le tissu, lui, est extrêmement codifié. Il ne peut être que noir ou blanc. Alors, la moitié des dandys sont convaincus qu'il n'y a de cravate que blanche. Et évidemment, l'autre moitié, il ne peut être que noir. Mais la cravate en couleur arrive beaucoup plus tard.
Quand ?
Je ne sais pas très bien, mais je dirais vers la deuxième moitié du 19e siècle.
Alors, avant d'en arriver là, vous venez d'ailleurs, puisque les mots sont importants, d'en employer un, qui est le mot lavalière. Qu'est-ce que c'est exactement une lavalière ?
Une lavalière, c'est une bande de tissu étroite et souple, qui est rectangulaire, et qui forme un nœud beaucoup plus souple, qui est une sorte d'écharpe étroite. Alors, la lavalière, quand elle prend forme, s'appelle plutôt ascot. Quand elle se rapproche de la cravate, le mot ancien était régate.
Ouh là là, c'est très compliqué. Et pourquoi régate ?
Je ne sais pas du tout.
Avant cravate, on disait régate ?
Avant cravate, on disait régate, oui.
Et alors, j'ai trouvé aussi un autre mot très étrange qui était le stock.
Le stock est une forme de régate. Et donc, ce sont des cravates qui, petit à petit, prennent cette forme plus étroite autour du cou et formée de deux grands pans se terminant de manière biseautée, qui devient la cravate. Mais c'est au terme d'une longue évolution durant laquelle la forme du col de la chemise se stabilise et petit à petit le gilet disparaît, la veste prend sa forme actuelle et la cravate prend son importance.
Est-ce que vous liriez ça à l'évolution de la bourgeoisie capitaliste est un peu hypocrite au cours du 19e siècle, a tant critiqué Flaubert, c'est-à-dire qu'on quitte les extravagances des nœuds de dandy dont vous parliez parce que tout ça n'est pas sérieux et on affecte l'air d'un banquier.
Non, c'est tentant ce que vous dites, mais je crois que c'est plus simplement lié à l'évolution du gilet. Au début du 19e siècle, toute la fantaisie est dans le gilet. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est un accessoire de mode beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Songez qu'on se donne un mal de chien pour le choix des boutons de son gilet. Toute la couleur, tout le motif, toute la personnalisation est dans le gilet. Charvet avait au 19e siècle une spécialité de raconter l'histoire de quelqu'un à travers le motif du gilet.
Par exemple,
on pouvait imaginer un chasseur qui partait à la chasse au cerf en haut à gauche du gilet et puis il le poursuivait jusque dans la poche dans laquelle, s'il était irlandais, il y avait peut-être un tonneau de whisky.
D'ailleurs, vous venez de parler de l'histoire de votre maison. De quand date la maison ?
La maison date de 1838. Donc, elle est tout à fait contemporaine à sa naissance de ce changement de la mode qui est celui que le dandysme du Brumel a précédé et qui voit le marquage de l'affinement de la silhouette, l'ouverture du buste et le fait de montrer le devant qu'avant on cachait.
Charvet était déjà où elle est aujourd'hui ?
Non, à l'époque, Charvet était rue de Richelieu, qui était le centre de la mode pour hommes à Paris. C'était un quartier de passage, enfin un quartier où il y avait des passages couverts, et donc aux alentours de l'ancien opéra, qui était l'opéra comique. Et ce n'est qu'après l'installation de l'opéra Garnier que le centre de la mode s'est déplacé, et nous avec lui, vers la place Vendôme.
C'était la rue de Richelieu, un endroit aussi où un écrivain très coquet et qui aimait les cravates est mort, c'était Stendhal. Il est mort rue de Richelieu. Alors, pour en venir aux choses pratiques qui sont très importantes, d'ailleurs parce qu'elles conditionnent l'esthétique, c'est comment se fabrique une cravate? D'abord, est-ce que, j'imagine, Charvet a fabriqué dès le début? Vous avez dans vos registres des très anciens registres de
cravates? Oui, nous avons des très anciens registres de cravates. Et alors, concevez qu'à l'origine, les cravates en soie étaient unies. Et il y avait un raffinement dans l'uni que l'on peine à imaginer. Par exemple, dans des registres extrêmement poussiéreux, il y a des variétés infinies de toutes petites nuances d'armure d'un serge ou d'un reps ou d'un tissu à côte qui, pour notre œil d'aujourd'hui, semble être toujours le même, mais qui, pour les gens de l'époque, était plein d'infinies nuances. Donc les tissus, on retrouve un peu ce que vous disiez sur les goûts de la bourgeoisie. Les tissus de cravate étaient à l'origine très mats, et toute la brillance, tout le chatoiement était dans le gilet. Et petit à petit, au cours du XIXe siècle, tout l'art du tissage, tout l'art de la soie, qui est aussi un art de la lumière, s'est déplacé vers la cravate. Donc les soies que sont devenues de plus en plus colorées, le motif y a pris de l'importance, et l'innovation dans le motif également.
Alors, Jean-Claude Colban, expliquez-moi les mots grand pan, petit pan, col, doublure et triplure.
Allons-y. Donc, une cravate est faite pour l'essentiel de trois parties. Le collier, qui joint deux pans, celui de devant, qui est plus large et qui est le grand pan, et celui qui vient se placer derrière, qui est le petit pan. Donc, trois parties. Ensuite, la doublure et la triplure demandent une petite parenthèse, car jusque dans les années 30-40, la doublure et la triplure n'existaient pas. C'est-à-dire que la cravate, c'était ce qu'on appelle une cravate faite de 7 plis, un morceau de soie replié sur lui-même.
7 fois ?
7 fois. Enfin, il y avait 6 fois, puisqu'il y avait 7 plis. La triplure est une invention, je crois, américaine, des années 1920. Et donc la triplure est une sorte d'âme à l'origine de laine, parfois de laine et de crin, qui donne une certaine résilience à la cravate et lui permet de supporter les tractions extrêmes qu'on fait subir à la cravate lorsqu'on fait un nœud et qu'on tire dessus pour qu'il soit parfait.
C'est un renforcement, en quelque sorte ?
Alors, ça ne doit pas être une tricherie. Ça doit être une sorte de ressort. Quelque chose qui permet à la cravate de reprendre sa forme.
Qui donne une élasticité, en
quelque
sorte.
Qui donne une élasticité qui lui permet de revenir à sa forme. Et donc, à partir du moment où on a pensé à mettre une fine triplure dans la cravate, est venue tout naturellement la doublure, qui est une partie de soie qui venait cacher la triplure.
Est-ce que la cravate la plus raffinée serait donc la cravate qui serait la plus simplement faite? C'est celle à 7 pans.
Alors, elle a...
À 7 plis, pardon.
À 7 plis.
Est-ce que vous continuez à la fabriquer?
Bien sûr, bien sûr.
Donc, vous êtes trop chic pour faire une cravate à triplure.
Écoutez, moi, je ne suis pas convaincu que il faille considérer toujours que ce qui est le plus vieux est le mieux. Non, je pense que les cravates à 7 plis ont la beauté de la main de soie, mais elles ont l'inconvénient d'être un peu creuses parfois.
Nous allons maintenant entendre Thomas Fersen, qui ne porte pas souvent de cravate, mais qui les chante. Et c'est donc tout simplement sa chanson « Les cravates ».
Je devrais être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité. Moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté. Et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie. Même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou à mon avis. Je suis sapé comme un hôtel. cuillère, cravate blazer et nous dansons. Et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds.
Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie.
Ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer. Cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison. Et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise.
Cravate à pois, cravate de soie.
Alors Jean-Claude Colban, je me fie à vous et à la plus vieille maison de Paris pour les cravates et les chemises d'ailleurs, pour me dire, avant ce qu'il faut faire ou pas avec les cravates, pour me dire comment on les fabrique et continuer ce que nous avons dit dans la première partie. C'est-à-dire, nous avons parlé des formes, nous avons parlé des matières. J'ai lu dans un livre anglais avec le péremptoire charmant des livres d'élégance anglaise, la phrase suivante, une bonne cravate est en soie tissée, point. Ça veut dire que ces chers Anglais excluent toute autre chose que la soie tissée, mais je ne sais pas bien ce que c'est que la soie tissée. J'ai entendu parler de la soie nattée, qu'est-ce que c'est que tout ça?
Donc, ce qu'on appelle improprement soie tissée, c'est la soie jacquard. Je vous dis improprement parce que finalement, c'est toujours d'un tissu. Un tissu est toujours tissé. Mais les Anglais disent soie tissée pour décrire un dessin qui est formé par l'entrecroisement des fils, donc qui n'est pas imprimé. Et il n'y a rien de plus désagréable pour quelqu'un qui se donne beaucoup de mal pour faire des beaux dessins en jacquard que de se faire complimenter par quelqu'un qui vous dit « it's a nice print
». Et alors, qu'est-ce que c'est que la soie nattée?
La soie nattée, c'est le plus simple des motifs d'entrecroisement. C'est-à-dire que ce sont des motifs qui sont regroupés pour former des petits carrés, comme une sorte de damier. Disons que la partie noire du damier serait faite par les fils de chêne et la partie blanche par les fils de trame. C'est un dessin très simple, mais qui maximise l'effet de jeu de lumière entre les fils de chêne et les fils de trame.
Est-ce que vous êtes opposé aux autres tissus que la soie, comme par exemple le cuir? Je ne suis pas sûr que ce soit très élégant, mais le tricot, qu'est-ce que vous pensez de ces cravates-là?
Alors, d'autres fils que la soie, oui. Par exemple, la laine, par exemple, le lin, par exemple, le jeune chameau. Ce sont des matières qui ont l'avantage d'avoir un contraste intéressant de lumière et de matière avec la soie. Le tricot, oui. Le tricot, la cravate en tricot est un objet traditionnel qui demande un très grand soin et un apprêt particulier. Vous reconnaissez une belle cravate en tricot à l'oreille. Elle a un crissement particulier qui est un signe de qualité. Le cuir, je vous avoue que je suis assez peu connaisseur.
Qui décide des motifs? C'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre maison, vous décidez, tiens, cette semaine ou cette saison, on va faire des motifs de jeunes chameaux, on va faire des motifs d'éléphants?
Oui, je m'en occupe beaucoup. Et non seulement nous décidons des motifs, mais nous décidons des couleurs, c'est-à-dire que nous faisons teindre des couleurs pour la saison, et nous disposons pour cela d'un outil merveilleux qui est un atlas de nuances que la Chambre syndicale des teinturiers lyonnais a maintenu vivant du début du XXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et qui était une publication périodique avec une infinité de nuances merveilleuses qui étaient si bien teintes qu'elles sont encore très fraîches. Donc nous utilisons beaucoup des couleurs traditionnelles lyonnaises, nous dessinons nos propres motifs et nous essayons de trouver chaque saison de nouvelles armures. Parce que finalement, la soie tissée dont vous parliez, ce qui fait sa beauté, c'est aussi l'armure, la texture que prend le dessin. Et vous savez peut-être que charvet est en anglais un nom commun pour désigner une certaine forme d'armure, de tissage, qui était notre spécialité au XIXe siècle, mais que des Français, évidemment, n'appellent pas le charvet.
Ça, c'est la preuve ultime de la réussite de devenir un nom commun.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'en français, on dit le tissu régence. Il n'y a que les étrangers qui disent le charvet.
Vous venez d'employer un mot qui prouve que Proust, que je citais au début, avait raison. C'est le même mot que lui. Vous avez dit une nuance merveilleuse.
Ah oui ?
Oui. Et pour parler de couleurs, qu'est-ce que vous pensez des cravates rouges ? La cravate rouge, Jean-Claude Colban, a été recommandée par un petit écrivain dandy des années 20 qui s'appelait Eugène Marsan dans un livre qui s'appelle Notre costume. Pour une raison que je trouve très sympathique, c'est parce qu'un écrivain le faisait. Il disait que Baudelaire portait des cravates rouges, nous devons le faire. Ça peut être aussi un contre-exemple parce que Baudelaire portait parfois des perruques vertes.
Ah oui ? Le rouge est une couleur qui a été longtemps perçue comme difficile, un peu vieillotte, un peu trop crue, un peu dure, et qui aujourd'hui retrouve beaucoup d'intérêt, d'une part à cause du rouge un peu rosé, un peu pourpre, un peu dans la direction du violet, et d'autre part parce qu'il y a depuis quelques saisons un regain d'intérêt pour les coloris indiens, pour ce qui évoque la route des épices, et ça. Alors ce sont plutôt les rouges safranés, les rouges orangés. Mais d'une manière générale, nous vivons une période où les coloris, hélas, se standardisent. Et nous essayons de lutter contre cela, d'où l'intérêt pour retrouver de vieilles couleurs, qui sont souvent des couleurs naturelles, des couleurs colorés avec des pigments naturels qui ont une capacité d'émotion que les couleurs synthétiques n'ont pas.
Est-ce qu'il existe des couleurs clichés en matière de cravate ? Puisque nous étions au rouge, moi ce qui me frappe, c'est dans la politique américaine par exemple, il est très convenu que les sénateurs et les présidents de la République américaine portent presque toujours des couleurs rouges. Est-ce que vous, dans votre clientèle, vous assistez à des choses comme ça ? Est-ce qu'un
Bien
certain
sûr.
Type de métier demande un certain type de
Bien
couleur
sûr.
Et de forme ?
Je dirais qu'en France, les poncifs sont peut-être plutôt la cravate marine. Au Japon, un homme d'un certain âge montre sa respectabilité en portant une cravate bordeaux. Un Irlandais, pour rien au monde, ne porterait une cravate verte. Donc c'est une sorte de poncif négatif. Donc ces poncifs existent et pourtant, ils sont toujours tout le temps détournés. C'est-à-dire que, évidemment, c'est parce que la cravate marine a longtemps été considérée comme banale qu'elle devient petit à petit intéressante à nouveau.
L'usage que font les politiciens des cravates est d'ailleurs intéressant. Pendant longtemps, par exemple, les membres des gouvernements israéliens n'en portaient pas, soit que c'était pour montrer qu'ils travaillaient et qu'ils faisaient des choses sérieuses pour le pays, soit que souvent c'était d'anciens kibboutzniks qui n'avaient authentiquement rien à faire des cravates. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des politiciens qui trouvent peut-être populaire de ne pas porter de cravate ?
Je pense qu'ils trouvent ça populaire.
Et puis, il y a les femmes. Alors, les femmes portent parfois des cravates. Je me demande si ça ne date pas des lesbiennes 1910, si je peux les appeler comme ça, qui ont arraché les cravates aux hommes. Il y a une photo de Mathilde de Morny, la demi-sœur de Napoléon III, portant la cravate. Et puis après, c'est passé un peu au cinéma. On se rappelle Marlène Dietrich qui portait parfois des cravates. Et j'ai trouvé avant elle un film muet de 1924 avec Norma Shearer, où elle porte un chapeau cloche et une très jolie cravate en jacquard. Et il y a eu Diane Keaton aussi dans Annie Hall, mais là c'est pour montrer, elle porte une cravate. Woody Allen, à mon avis, lui fait porter une cravate pour montrer qu'elle est provinciale et pas new-yorkaise. Est-ce que vous avez des clientes femmes qui vous achètent des cravates ?
Oui, mais les cravates pour femmes ont beaucoup plus longtemps gardé la fantaisie de l'origine de la cravate. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les chemisiers pour femmes, qui à l'époque s'appelaient des chemisettes, étaient conçus pour être portés avec des cravates, Par exemple, nous avons eu une certaine gloire dans les années 1880 avec un modèle qui s'appelait la cravate Le Juge. Qui
était le Juge ?
Oui, la cravate Le Juge, qui était une cravate pour dames. Et beaucoup de ces formes amusantes, non stéréotypées, non conventionnelles, comme celle de la régate d'aujourd'hui, ont été encore portées par des femmes qui, petit à petit, ont dû se rabattre sur les seules formes de cravates restées en fabrication, qui sont celles que portent également les hommes. Mais ça n'a pas été toujours le cas.
Est-ce que vous êtes révolté par ce que faisait la chanteuse Patachou, qui est morte il n'y a pas très longtemps, et qui avait une boîte de nuit à Montmartre dans les années 60? Dès que des clients arrivaient dans sa boîte de nuit, elle coupait leurs cravates, elle les suspendait par une pince à linge à une corde. C'est criminel pour vous? Vous trouvez ça drôle?
Oui, évidemment.
Oui, ça augmente la clientèle.
Bien évidemment.
Est-ce que la plus parfaite cravate n'est pas le nœud coulant du pendu?
Je n'avais jamais pensé à ça, mais non, je ne pense pas. D'abord, je ne pense pas qu'un nœud de pendu fasse une fossette. Et une belle cravate doit faire une fossette.
Il faut une fossette.
Ah, moi, je crois, oui. Parce que la cravate a avant tout pour objet de jouer avec la lumière, et la fossette l'aide à jouer avec la lumière. Et je pense que la cravate du pendu est un peu trop mate.
Et est-ce que dans les choses qu'il faut ou ne pas faire, est-ce qu'il faut porter une épingle ou une pince, ou est-ce que c'est de la dernière vulgarité?
Ça dépend de quelle épingle. Si vous avez une épingle merveilleuse, qui est un bijou remarquable, il faut la montrer absolument, mais hélas, on n'en fait plus beaucoup. Les pinces, c'est un peu... Ça fait partie d'une sorte de... d'aspect de... d'éternelle jeunesse, disons, mais... Je ne pense pas que je le recommande.
Est-ce que vous avez jamais commandé à un artiste de vous dessiner une cravate? Je pense à ça parce que Salvador Dali, dans les années 40, qui n'était jamais en peine de vouloir gagner de l'argent pour commencer, de se faire de la publicité pour continuer, avait dessiné une collection de cravates. Ça vous est arrivé de demander à un peintre de...
Oui, Raoul Dufy a fait beaucoup de motifs de cravate pour Charvet. Et de motifs de cravate et de motifs de... À l'époque, nous utilisions un tissu fait de chanvre pour ses qualités de fraîcheur, un peu comme celle du lin. Et donc, on en faisait également des robes de chambre. Et donc, beaucoup de ces motifs ont été conçus par Raoul Dufy, puis tissés par la maison Bianchini-Ferrier.
Est-ce que un client vous a jamais demandé de faire une cravate spécialement pour lui?
Très fréquemment.
Ah bon?
Oui. Et alors ça peut aller d'un armateur qui veut avoir les armes de sa flotte pour tous les capitaines de ses bateaux.
Et vous acceptez?
Évidemment, c'est un défi. Ce qui est drôle, c'est d'arriver à le faire, mais à le faire discrètement. Que l'on reconnaisse le sujet si on sait de quoi il s'agit, mais que sinon ça ne saute pas aux yeux. Ça, c'est un exercice très amusant.
C'est l'image dans le tapis, c'est la cravate Henry James.
Exactement.
Pour finir, Jean-Claude Colban, le secret professionnel de la cravate, serait-il qu'elle constitue le plus grand paradoxe de l'habillement contemporain, c'est-à-dire qu'elle est excessivement conventionnelle, mais que c'est là que se réfugie quand même la seule possibilité de fantaisie?
Oui, je suis d'accord avec vous. Et je crois qu'elle est moins conventionnelle aujourd'hui, qu'on n'est plus obligé de la porter. Mais je pense qu'elle est un espace de liberté qui a peu d'équivalent dans le vestiaire masculin.
C'était Secret Professionnel, le 234e. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Abgral. Prise de son Philippe Palares. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.